14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
40 millions de francs de bijoux, c'est le montant du hold-up de la bijouterie Cartier à Cannes hier. C'est l'un des plus importants vols de bijoux jamais commis en France. Ces deux auteurs ont été identifiés par la police. L'un d'eux s'appelle Bruno Sulac. C'est un homme qui aurait déjà participé à la plupart des grands hold-up qui ont été commis depuis un an contre des bijouteries de luxe.
Bonjour. On a souvent raconté que si Arsène Lupin avait un héritier, celui-ci s'appellerait Bruno Sulac. Gentleman braqueur, inclassable, beau comme un acteur de cinéma, intelligent, séduisant, tout aussi bien les femmes que les policiers les plus chevronnés, les juges et les gardiens de prison. Pendant 7 ans, Bruno Sulac va faire tourner en bourrique les meilleurs flics de France, écrire à lui tout seul le scénario d'un incroyable film d'action, avec ses braquages à visage découvert, ses déguisements, ses pseudonymes et ses évasions à répétition. La dernière d'entre elles, qu'il avait imaginée sans tirer le moindre coup de feu, sera son ultime saut dans le vide. C'est cette trajectoire éclair, celle d'un gangster qui ne ressemblait à aucun autre que je vous raconte aujourd'hui. Que cherchait cet homme à travers les braquages? Bien plus que l'argent, sans doute, la griserie de l'aventure. Que sait-on vraiment de lui? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de cette histoire.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, Bruno Sulac, le gentleman braqueur. Son nom va émerger à l'automne 78 lors d'attaques de supermarchés pour le moins inhabituelles. Les gangsters se présentent à visage découvert. Ce samedi 14 octobre 1978, dans la matinée, deux caissières de l'hypermarché Mammouth à Albi sont affairées à compter la recette de la veille. Recette record, c'était nocturne pour le grand magasin qui est resté ouvert jusqu'à 22h. Les deux femmes n'ont pas le temps d'en finir avec leurs liasses de billets et de chèques. Deux hommes, jeunes, sportifs, font irruption dans le local. Ils sont armés, ils braquent les employés terrorisés qui les supplient de ne pas leur faire de mal. L'une d'elles tombe même dans les pommes. Les deux hommes restent calmes, ils se veulent même rassurants. D'ailleurs, ils ne sont pas masqués, ni cagoulés. Un brun qui paraît plutôt athlétique, impossible de l'oublier, il porte un sparadrap bleu sous le nez. Et puis un blond, mince, souriant, les yeux clairs, sveltes et musclés. Un beau mec, se souviendra Claudine, l'une des caissières. Le duo embarque la recette et prend la fuite à bord d'une Simca 1100 garée sur le parking client. 293 000 francs de butin. La voiture sera retrouvée avec à l'intérieur le morceau de sparadrap et un blouson. Les deux braqueurs ont gardé l'argent. On apprendra plus tard qu'ils ont détruit les chèques pour que les clients de Mammouth passent un bon week-end aux frais du magasin. Quelques jours plus tard, la PJ de Bordeaux signale un nouveau braquage d'hypermarché commis par deux individus, un brun portant un sparadrap sous le nez et un blond. Deux hommes décrits avec précision et pour cause. Ils ont à nouveau agi à visage découvert. Les policiers s'interrogent sur ce duo qui n'a pas froid aux yeux au point de les montrer à la première caissière venue. La section de recherche de la gendarmerie de Périgueux a deux hommes en ligne de mire repérés pour faire la fête et dépenser sans compter dans les boîtes de nuit. Les dénommés Bruno Sulac et son beau-frère Yves Carillo. C'est le premier qui les intéresse, pas pour d'éventuels braquages dont ils ignorent tout, mais pour désertion de la Légion au printemps 78. Engagé dans les rangs du 2e REP, sous le nom de Bernard Suchon, parachutiste chevronné, champion de chute libre, Sulac s'est vu refuser l'homologation de son record. Il a alors claqué la porte de la Légion. Quelques mois plus tard, 24 février 79, il s'est marié à Patricia, enceinte de 6 mois, la sœur du fameux Yves Carillo. Les gendarmes ont localisé leur déserteur. 4 jours après son mariage, Bruno Sulac est interpellé à 23h30 alors qu'il gare sa voiture devant son pavillon de Boulazac en Dordogne. On lui fait savoir que l'armée le recherche. Il ne paraît pas vraiment inquiet, mais il se fige quand les gendarmes ouvrent le coffre de la Renault 30. Il y a là des armes, 2 revolvers et un pistolet automatique, des munitions, 3 cagoules, des gants, une paire de menottes, la panoplie du parfait braqueur. Dans un sac, 150 000 francs en billets usagés. Sulac dit qu'il rentre d'un braquage au supermarché Montlore de Latte, près de Montpellier. Il invente des noms de complices farfelus. Son complice Yves Carillo est absent. Il se constituera prisonnier 1 mois plus tard. Bruna Sulac est incarcérée à la prison de Montpellier, puis transférée à celle d'Albi. C'est dans cette ville qu'il va bientôt être jugé. Il ne supporte pas la détention depuis le premier jour. Il est obsédé par l'évasion. Yves Carillo se sent lui aussi comme un lion en cage. Les deux hommes se procurent des lames de scie. Pendant des nuits, ils vont limer et découper les barreaux de cet établissement vétuste. Le 24 juin 80, après 15 mois de détention, les deux hommes déroulent une corde et se font la belle en pleine nuit. Ils traversent la cour en courant. Un gardien tire des coups de sommation. Yves Carillo est trop loin du mur d'enceinte. Il est repris. Bruno Sulac, lui, a déjà basculé de l'autre côté. Première fois qu'il se jette ainsi dans le vide. Première cavale. Première fois que son nom apparaît en toutes lettres dans les journaux. Bruno Sulac est en cavale, parti pour de longs mois de clandestinité. Pas question pour lui de retourner en prison, il peut compter pour cela sur des amis sûrs, séduit par cet ancien légionnaire à qui tout réussit. Au 36 quai des Orfèvres, la photographie de Bruno Sulac figure en bonne place dans les bureaux de l'OCRB, l'Office central de la répression du banditisme. Le voyou est impossible à localiser. Il se déplace sous de fausses identités, des pseudos qui vont de Christophe de Bourges jusqu'à Juan Felipe Diaz, en passant par Hervé Cossard. La police identifiera au total 8 faux passeports et cartes d'identité. L'homme échappe à tous les contrôles, même s'il prend tous les risques. Le 24 août 1980, il fait libérer le truand marseillais Jean-Louis Segreto de la prison de Montpellier. Un complice s'est présenté à visage découvert au parloir. Sulac, cette fois cagoulé, lui a emboîté le pas et a surpris tout le monde. Il a braqué un surveillant et s'est fait conduire jusqu'au couloir des cellules. Il a fait ouvrir celle de Segreto, puis a insisté pour qu'on l'emmène jusqu'à celle du dénommé Yves Carillo, son ex-beau-frère, le compagnon des premiers casses. Raté, Carillo était depuis la veille consigné au mitard pour avoir empoigné un surveillant. Sulac avait promis à ses amis qu'il viendrait les chercher. Il a tenu parole, même s'il ne repart qu'avec un seul de ses détenus. 25 janvier 1982, après 2 ans de cavale, l'OCRB a bon espoir de mettre la main sur l'infernal Bruno Sulac. Malgré la clandestinité, le truand n'a jamais coupé les ponts avec sa famille. Les policiers ont ainsi placé sous étroite surveillance sa sœur Pauline, venue s'installer à Paris. Ce jour-là, à midi, ils font irruption dans un studio au 151 avenue de Suffren. À Paris, Sulac y est surpris avec Thaly, sa dernière maîtresse. Sur place, les enquêteurs découvrent une montagne de faux papiers, des armes, une balance de diamantaires, de l'argent liquide, un brevet de pilote d'hélicoptère obtenu sous un faux nom. Le commissaire Georges Moréas a enfin face à lui cet homme qu'il pourchasse depuis des mois. Entre le flic et le truand, l'interrogatoire prend plutôt l'allure d'une conversation détendue. Georges Moréas dira de Sulac qu'il était davantage un aventurier qu'un authentique bandit, parlant avec aisance de tout et de rien, charmeur et volontiers amical. Même si le policier se méfie, lors des auditions, le regard de Sulac se porte en effet obstinément sur la fenêtre. Il est donc menotté à un radiateur. Le truand, conscient qu'il serait sûrement condamné à de longues années de prison, prévient le policier « N'ayez crainte, je m'évaderai ». 21 juillet 82, 6 mois après cette prédiction, Bruno Sulac est jugé pour avoir fait évader le truand marseillais Jean-Louis Segreto. Il écope de 3 ans de prison. Quelques jours plus tard, 19h30, lors d'un transfert en train qui l'emmène menotté de Montpellier à Lyon, 2 hommes surgissent dans le compartiment du corail. Des coups de feu sont tirés en l'air. Les 5 gendarmes de l'escorte sont tenus en joue, contraints de libérer leurs prisonniers. Sulac actionne lui-même le signal d'alarme du convoi qui s'immobilise dans la petite gare de Valergue. Le trio s'enfuit à toutes jambes, braque 2 automobilistes sur une petite route, puis se fond dans le soir qui tombe. Sulac vient de réussir sa 2e évasion. 5 mois plus tard, il ressurgit à Cannes, hold-up en plein jour à la bijouterie Ferré. Le patron et un employé menacé par un homme blond, calme et souriant. Montre, bague, pendentif, raflé en 5 minutes. Puis 2 bijouteries attaquées à Paris, à visage découvert. Sulac est accompagné par un nouveau complice, un grand brun. Il va falloir du temps pour identifier ce colosse qui s'affiche pourtant sur tous les écrans de cinéma. Il vient de tenir un petit rôle de flic dans Le Professionnel avec Belmondo, dont il est le garde du corps occasionnel, un certain Radisa Jovanovic, que tout le monde surnomme Steve. Sulac et Steve deviennent alors l'équipe de braqueurs la plus recherchée de France. Sulac et Steve, ces deux hommes vont devenir les bêtes noires des policiers et des bijoutiers, complètement désarmés face à ce duo qui prend tous les risques et agit avec une incroyable insolence. 21 janvier 1983, le quartier des Champs-Élysées est en partie bloqué et fourmille de policiers. Le président François Mitterrand reçoit le chancelier allemand Helmut Kohl. C'est justement le jour choisi par Bruno Sulac et Steve Jovanovic pour dévaliser la bijouterie Van Gold. Le fric-frac n'a duré qu'une poignée de minutes, main basse sur des montres hors de prix. Le butin avoisinerait les 13 millions de francs. Une semaine plus tard, le duo frappe à quelques rues de là, avenue Montaigne, la bijouterie Cartier. Le personnel décrit deux hommes qui se sont présentés comme des clients. Ils ont calmement sorti leurs pistolets. Pas du tout agressifs, polis, mais déterminés. 10 millions de francs de préjudice. 1 milliard sans un coup de feu, titre un journal. La photo de Bruno Sulac, toujours la même, regard pétillant et sourire en coin, s'affiche à la une. Après le hold-up de chez Cartier, le braqueur se paie le luxe de téléphoner au commissaire Moréas. « Tout va comme tu veux ?» questionne Sulac, qui propose même au policier de lui remettre une montre Cartier pour son épouse. Rendez-vous sans suite, Sulac raccroche et disparaît jusqu'au prochain coup. 19 août 1983, boulevard de la Croisette à Cannes. Un client qui fréquente depuis quelque temps la bijouterie Cartier entre dans sa tenue habituelle, polo blanc Fila, basket Diadora, un sac d'où dépasse une raquette. Ce client passionné de tennis, qui raconte qu'il admire par-dessous tout Bjorn Borg, est à Cannes pour perfectionner son revers. Il est déjà client Cartier, pour preuve. Il porte une bague volée, avenue Montaigne. Il demande à voir un briquet panthère, serti d'émeraude. Une pièce qui le fait rêver et l'attire depuis un bon moment. La vendeuse s'occupe de lui. Le directeur sert un autre client, un grand brun à l'accent étranger qui cherche une montre. Au même moment, les deux hommes dégainent leurs pistolets automatiques. Les vitrines sont vidées, les coffres-forts ouverts, les voleurs prennent tout leur temps. Le hold-up va durer une éternité, pas moins de 10 minutes avant que l'alarme retentisse au commissariat. 40 millions de francs de butin, soit 12 millions d'euros, un record. Sulac et Steve embarquent dans un jet privé, direction Paris-Le Bourget, puis le Brésil pour Bruno Sulac, soucieux de se faire oublier. Exilé au Brésil, Bruno Sulac a le mal du pays. Il va bientôt se retrouver à court d'argent. Il lui faut rentrer. Un retour qui devait être une formalité, mais qui va se transformer en tragique aventure. Ce 9 février 1984, Bruno Sulac se présente au poste frontière de Biriatou, entre la France et l'Espagne. Il est muni de faux papiers, mais ignore que la Mercedes qu'il a achetée en Espagne est déclaré volé. Il est détenu à la maison d'arrêt de Bayonne. Il a donné un faux nom, invérifiable. Pendant 15 jours, personne ne fait le rapprochement avec le braqueur numéro 1. Il s'apprête même à être remis en liberté après avoir payé une amende et reçu une convocation pour se présenter devant un tribunal. Mais à quelques heures de l'échéance, en consultant les fiches de la police aux frontières, la PJ parisienne l'identifie. Bruno Sulac est alors transféré à la prison de Gradignan. À Bordeaux, une cellule individuelle au barreau renforcé. Le détenu est confiant. Il peut compter sur ses amis à l'extérieur pour le sortir de là. Steve, le complice de toujours, établit un plan. Tout est calculé. L'évasion se fera par les airs. Un mois pile après l'arrestation, Steve loue un hélicoptère sous le nom de Grégory Fanelli, photographe pour un magazine. Mais le plan de vol qui survole la prison de Gradignan intrigue les autorités. Quand Steve se présente à l'héliport, il s'aperçoit qu'il est attendu, il fait feu avec son 357 Magnum, la police riposte. Steve est abattu de 2 balles. La nouvelle m'a atteint comme une balle en plein cœur. Elle ne valait pas cela, ma liberté. Ce n'était pas comme je croyais, ce n'était pas un jeu, écrira Bruno Sulac. 20 mars 84, Bruno Sulac se retrouve devant la cour d'assises du Tarn, à Albi. La foule est venue voir Arsène Lupin, la terreur des bijoutiers, le dévaliseur de chez Cartier. C'est cependant pour son premier hold-up, celui du mammouth d'Albi, qu'il est jugé. Tous les regards sont pour lui, blouson de cuir et jean. On en oublie le deuxième accusé, l'ex-beau-frère Yves Carillo, qui vient de passer 5 ans et demi en prison. Sulac amuse le public. exonère son complice de toute responsabilité, ironique et blasé. Sauf quand il parle de Steve, je suis mort aussi dans ce guet-apens mis en place pour tuer de sang-froid et non pour arrêter. Sulak est condamné à 9 ans de réclusion, 7 ans pour Carillo. La prison se referme sur Bruno Sulak. Une nouvelle fois, il va tout mettre en œuvre pour en sortir au plus vite. Sans tirer, s'est-il juré, le moindre coup de feu. Après le procès d'Albi, Bruno Sulak est transféré à la prison de Fleury-Mérogis, quartier des DPS, les détenus particulièrement surveillés. Il a le sentiment d'y devenir fou. Il veut s'évader. Des amis sont prêts à lui faire passer des armes, mais il refuse. Il ne veut pas le moindre coup de feu. Il agira par ruse, persuasion et surprise. Après 6 mois de détention, il s'est ainsi mis dans la poche un gardien, Mark Medge, comme envoûté par le détenu. Il était fin, intelligent, rapide comme un félin, dira Medge. Un sous-directeur, Thierry Snitter, est également compatissant avec ce braqueur qui raconte de belles histoires et n'aime pas les armes. Le 17 mars 1985, sa sortie est organisée. Il est prévu que le gardien fasse diversion et que le sous-directeur embarque Sulak dans sa voiture. Tout se déroule comme prévu jusqu'à ce qu'une porte fermée interdise aux détenus d'entrer dans le bureau où il doit s'enfuir par une fenêtre. Il est piégé, se réfugie au 2e étage, se cache dans une armoire. Repéré par des surveillants, il sort, court vers la fenêtre et bascule dans le vide. Il est 23h15, on le retrouve, le crâne fracassé.
Bruno Sulak a été transporté à l'hôpital le plus proche de Fleury-Mérogis, celui de Corbeil, où il a subi ce matin l'ablation du rein et de la rate. Les médecins d'ailleurs réservent leur diagnostic, d'autant plus que le foie a été touché.
Bruno Sulak ne va pas survivre à ses blessures, mort à 29 ans. La famille Sulak ne croira jamais à cette fin accidentelle, persuadée que Bruno avait été poussé dans le vide. Une enquête exonérera les surveillants d'avoir provoqué la chute. Le braqueur au visage découvert repose au cimetière de Thiers, dans le carré réservé à l'administration pénitentiaire.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.